Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la Corne de l'Afrique. En Éthiopie, funérailles ce mardi à Addis Abeba pour le chef d'état-major de l'armée éthiopienne assassiné samedi par son garde du corps. Un incident apparemment lié à ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'état contre le gouvernement de la région Amara, dans le nord-ouest du pays. La présidente Saleh Wolde et le premier ministre Abiy Ahmed, qui ont essuyé quelques larmes, étaient présents à cette cérémonie, retransmise en direct à la télévision EBC, proche du pouvoir. Des obsèques durant lesquelles on peut voir le cercueil contenant la dépouille du général Seare Mekonnen, recouvert de drapeaux éthiopiens. Rappelons que samedi dernier, le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes a été tué par son garde du corps à son domicile d'Addis Abeba, alors qu'il coordonnait une opération en réponse à l'attaque menée dans l'après-midi contre une réunion de hauts responsables de la région Amara à Bahir Dar, le chef-lieu régional. Afrique de l'Ouest maintenant, au Niger, un groupe de députés de l'opposition a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Brigitte Rafini, dénonçant sa conduite des affaires, notamment sur le plan sécuritaire. L'équipe gouvernementale de Brigitte Rafini est en poste depuis 2011. Précision de notre correspondant, Aniamé Abdulrazak Idrissa.
Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la discussion et le vote de la motion de censure interviennent 48 heures après son dépôt. Le Premier ministre et son gouvernement mettent à profit ce temps pour préparer leur réponse aux griefs portés à leur encontre par les déposants. Griefs qui, pour le cas d'espèce, sont nombreux et évidents selon Issoufou Issaka, député du Modène FA, le principal parti de l'opposition.
Le gouvernement a montré son incapacité à assurer la sécurité dans notre pays. Chaque jour que Dieu fait. C'est des morts qu'on dénombre aussi bien dans les populations civiles que dans les rangs des FDS. Notre pays enregistre des baisses notables des indicateurs de performance. En atteste le classement peu enviable de notre pays au rang d'éternel dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Nous disons trop, c'est trop.
Le texte de la motion a été signé par 35 parlementaires, tous de l'opposition, un chiffre qui est très loin de la majorité d'au moins 85 députés nécessaires pour le faire passer. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Sénégal, le frère du président Macky Sall a annoncé sa démission de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis 2017. Aliou Sall avait été épinglé il y a 3 semaines dans un reportage de la BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Les détails avec Abdourahman Dia.
Dans sa lettre de démission, Aliou Sall a indiqué que cette controverse visait en fait son frère. Il devait lire sa lettre de démission devant la presse, mais en a été empêché par des sympathisants qui s'opposaient à sa démission. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, d'attribuer l'exploitation des 2 champs pétroliers et gaziers offshore à PetroTim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timmis. Dans un reportage diffusé le 3 juin, la BBC a affirmé qu'Aliou Sall avait reçu en 2014 une prime secrète de $250,000 de la part du groupe Timmis qui l'aurait engagé après l'arrivée de son frère au pouvoir pour un salaire de $25,000 par mois. Aliou Sall a formellement démenti avoir reçu cette prime. Les autorités sénégalaises ont ouvert une information judiciaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur la présidentielle en Mauritanie. Le candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, a été proclamé vainqueur de l'élection de samedi. D'après la CENI, la Commission électorale nationale, il a obtenu plus de 52% des voix et est donc élu dès le premier tour. Au micro d'Idriss Fall, notre confrère Mohamed Diop nous brosse le portrait du président élu de Mauritanie.
Mohamed Ould Ghazouani, il était chef d'état-major de l'armée. C'est également un ami de longue date de Mohamed Ould Abdelaziz. Ils ont cheminé pendant 30 ans ensemble. Ils ont participé dans les 2 derniers coups d'État qui ont après amené Ould Abdelaziz au pouvoir. Mohamed Ould Abdelaziz ne pouvait pas briguer un troisième mandat. C'est en ce moment-là qu'il est sorti de l'ombre pour être le candidat du pouvoir. Mais sinon, avant, on ne connaissait pas très bien. C'était quelqu'un qui était très calme, qui ne faisait pas beaucoup d'apparitions en public.
Celui qui est arrivé second aussi, Biramda Abeid, c'est une sorte d'outsider parce qu'il dirigeait le mouvement IRA anti-esclavagiste, même s'il était deuxième aux élections de 2014.
Biram, peut-être, moi je ne dirais pas un outsider parce que Biram a fait un cheminement un petit peu logique, même s'il passe du terrain des droits de l'homme vers le terrain donc politique. Mais il faut rappeler que les dernières élections législatives, il a été élu député alors qu'il était en prison. Donc ça renseignait un petit peu sur sa popularité. Les dernières présidentielles, il était arrivé également deuxième. Biram se positionne comme étant le candidat des Mauritaniens défavorisés et on a vu qu'il a pu remporter le vote à Ouagadougou, une ville où il y a une forte présence ouvrière, mais également tout le long de la frontière sud, où il y a une forte présence de la communauté négro-africaine.
Qu'en est-il de l'ancien Premier ministre soutenu par le parti islamiste Tawassoul?
Ça, c'est la grande surprise de cette élection, parce que tout le monde l'attendait vraiment à la deuxième position. D'ailleurs, certains pensaient même qu'il allait renvoyer le général au deuxième tour, et ça n'a pas été le cas. Peut-être il a été rattrapé un peu en quelque sorte par son passé parce que il fut deux fois premier ministre sous le régime de Moïse Kidjo Darmaïtaïa et sous le régime également de la transition.
Mais les gros perdants, ce sont les partis traditionnels.
Les gros perdants, ce sont les partis traditionnels parce que ceux qui sont arrivés premier, deuxième et troisième, ce sont des candidats indépendants. Si nous prenons l'exemple de Mohamed Ould Ghazouani, même s'il est soutenu par le parti présidentiel UPR, il n'a pas la carte de ce parti, donc il était candidat indépendant. Indépendant. Le deuxième qui est Biram Ould Abeid, c'est clair, c'est un candidat indépendant. Et puis de Mohamed Ould Boubacar, qu'on a cité tout à l'heure, il est soutenu par les islamistes de Tawassoul qui constitue la deuxième force politique du pays, mais pour autant, c'est un candidat indépendant. Le jeune Morsi qui s'est présenté, lui, il n'a même pas de parti, il est indépendant. Les partis traditionnels ont des difficultés. Récemment, on a vu près de 99 partis politiques qui n'ont pas eu de bons résultats lors des législatives passées, tombés sous le coup de la loi. Aujourd'hui, il en reste
Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en République centrafricaine, l'Église catholique dresse un bilan mitigé de la situation dans le pays. À l'issue de leur assemblée générale tenue le 23 juin à Bossangoa, les évêques de Centrafrique ont dénoncé la poursuite des violences dans le pays malgré la signature au début de l'année d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Dans un document de 9 pages, les évêques de Centrafrique ont dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays, malgré l'accord de paix signé en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. Même si les prélats notent la volonté de Bangui à restaurer la paix en redéployant l'armée nationale dans certaines régions, ils mentionnent que ces militaires sont souvent versés dans la pratique des barrières illégales et de raquettes des paisibles citoyens. Le document n'a pas été tendre aux groupes armés que l'Église catholique accuse de non-respect de l'accord de paix signé avec le gouvernement et de violences sur des civils et des religieux. Le peuple est fatigué par l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords qui ont eu lieu dans ce pays, ont dénoncé les évêques. L'assassinat de la religieuse franco-espagnole Inés Sancho à Nola, dans l'Ouest, est aussi évoqué, demandant que lumière soit faite sur ce crime. Les prélats ont par ailleurs mis l'accent sur l'exploitation anarchique des ressources naturelles du pays qui ne profitent pas aux populations. Ils attirent l'attention des autorités centrafricaines sur la naissance des milices proches du pouvoir et des conséquences qui pourraient en découler. Enfin, ils demandent à la communauté internationale de faire pression sur les groupes armés afin que ceux-ci respectent leurs engagements. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Coupe d'Afrique des Nations de football pour terminer. Les derniers matchs de la première journée se jouent ce soir. Et c'est le groupe F qui entre en compétition. Dans la première rencontre, les Lions indomptables du Cameroun feront face au Bissau Guinée à 17h temps universel. Dans le deuxième rendez-vous, les Écureuils du Bénin joueront contre les Black Stars du Ghana. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.